sujet de discussion.
Merci de nous retrouver. Bonjour à tous et bienvenue. Nous recevons dans les studios de fréquence de la paix le OneEPSI. Nous parlerons naturellement des actions menées pour qu'une jeunesse forte soit plus équilibrée et plus formée en termes de leadership. La jeunesse décide donc de ne pas rester spectatrice face aux joutes électorales et aux prises de décision. Et nous parlerons justement d'implication de la jeunesse dans la consolidation de l'appel au OneEPSI présent avec Stéphane Kadja, responsable jeunesse, paix et sécurité. Également point focal, jeunesse, paix et sécurité au OneEP régional. Stéphane, bonjour.
Bonjour, monsieur Blé. Comment allez-vous? Très bien, et chez vous?
Bienvenue. Nous recevons également Emmanuel Bonson, alumni Y-Team, assistant programme jeunesse, paix et sécurité. OneEPSI, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Puis la grande dame à qui nous déroulons le tapis rouge en studio, Leslie Malawa, alumni Y-Team de la 3e cohorte, stagiaire OneEPSI. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Bienvenue sous nos antennes. Alors, on commence avec la dame, naturellement, on essaie de savoir un peu, de façon générale aujourd'hui, en termes d'implication personnelle dans ces actions de paix et de culture du leadership, vous avez quel sentiment et comment vous trouvez utile à votre société?
Déjà, le fait pour moi d'être sur ce programme, c'est un avantage pour ma communauté dans la mesure où je pourrais apporter apporter plus de précision sur les notions de sécurité et de paix au niveau de ma communauté.
Votre communauté. Mmh. Alors, avec vous, Stéphane, tout le monde veut impacter. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on se rend compte qu'on a 30 millions de personnes qui impactent. Mais c'est quoi l'impact? Ça se passe comment, surtout au niveau de la jeunesse?
Alors, au niveau de la jeunesse, à OneEP Côte d'Ivoire, notre impact, c'est plus sur le leadership des jeunes, sur les actions qu'ils mènent dans leur communauté et sur leur capacité à être acteurs de paix dans leur communauté. Alors, nous, ce n'est pas l'impact populiste qui nous inquiète. C'est plutôt le fait que les jeunes soient au devant de toutes les actions. Nous savons qu'actuellement en Côte d'Ivoire, nous sommes près de 75% de jeunes. Et ces jeunes-là sont aussi les plus nombreux impliqués dans tout ce qui est processus électoral. Nous sommes à quelques pas des élections. Et nous, à travers nos activités, nous voulons que les jeunes soient des acteurs de paix dans leur communauté. Nous voulons que ces jeunes-là soient ces personnes qui portent nos formations, c'est-à-dire qui mettent en pratique les formations qu'ils reçoivent et pour impacter les communautés. Maintenant, quel impact ils peuvent apporter? Alors déjà, nous formons dans les questions de gestion des conflits. Je prends un exemple palpable. Nous sommes dans une région où il y a un conflit. Nous voulons que ces jeunes-là soient à même de prendre le lead sur la gestion de ce conflit-là et de prendre aussi des conseils avec les aînés pour pouvoir gérer ces conflits-là. Okay. Et dans les communautés, nous avons des moniteurs qui sont en majorité jeunes.
On reviendra pour expliquer dans les détails, Stéphane, justement, ce qui est fait par le OneEPSI. Alors, comment ces jeunes aujourd'hui devraient pouvoir s'orienter avec Emmanuel? Comment ils devraient se comporter? C'est vrai qu'ils sont exposés, certains les utilisent naturellement pour passer des messages de paix, d'autres aussi, évidemment, peuvent les utiliser pour diffuser de la violence et tout. Selon vous, comment ils doivent s'équilibrer?
Bon, à mon niveau, je crois que les jeunes doivent être plus inclusifs déjà dans la processus de paix. Ils doivent montrer vraiment un intérêt public, social, collectif, au niveau de leur collectivité territoriale, de leur quartier, communauté et tout.
Alors, les aptitudes, on va y revenir tout à l'heure, mais déjà en premier élément, avec vous, Stéphane, des auditeurs naturellement sont nouveaux, ils nous découvrent. Est-ce qu'on va représenter le OneEPSI? C'est important,
justement. D'accord. Déjà, je vais présenter plus le OneEP, puisque le OneEPSI revient du OneEP régional en question. Alors, il faut savoir que le OneEP a été créé en 1999 et c'est une initiative de deux étudiants, l'un ghanéen, l'autre sierra-léonais, qui, après plusieurs crises dans les années 1990-2000, ont décidé qu'ils allaient tous deux lancer un projet qui est la création d'une organisation de la société civile. Alors, il faut savoir que OneEP est présent dans 15 pays d'Afrique de l'Ouest avec près de 750 organisations membres. Alors, OneEP est aussi spécialiste dans les questions d'alerte précoce et de prévention de conflits et surtout dans les questions d'engagement des jeunes et des femmes. Il faut savoir que à Wanep, nous employons, surtout à Wanep Côte d'Ivoire, nous employons essentiellement les jeunes. L'exemple, c'est que, par exemple, nous, actuellement, au siège de Wanep Côte d'Ivoire, nous faisons 80% de jeunes qui y travaillent, avec un coordonnateur assez dynamique et jeune aussi. Il faut savoir que, aussi, à Wanep, nous avons trois grands programmes. Il y a le programme à l'aide précoce, qui est notre spécialité. Mmh. Il y a le programme jeunesse paix sécurité. Et il y a le programme femmes paix sécurité. Alors, Wanep est présent, comme je l'ai dit, dans les 15 États de l'Afrique de l'Ouest et comporte 15 coordonnateurs nationaux, 15 points focaux jeunesse paix sécurité, 15 points focaux femmes paix sécurité. Et nous avons aussi une analyste au niveau régional, en l'occurrence Madame Novieku d'Adonora, qui est aussi celle-là qui essaie de faire le suivi de toutes les actions que nous menons dans ces programmes et qui, à travers ces analyses jeunesse paix sécurité, femmes paix sécurité, essaie de proposer plusieurs analyses stratégiques pour renforcer l'impact même du programme et la prise en compte des différents défis spécifiques des femmes et des jeunes.
Justement, on va parler en quelques minutes d'alerte précoce. C'est un terme qui revient assez souvent pour le citoyen lambda. De quoi est-ce qu'il s'agit ?
D'accord. L'alerte précoce, c'est un outil de prévention de conflits basé sur
la collecte de données.
La collecte de données, effectivement, merci. Sur les collectes de données, basées sur l'analyse des données et les réponses que nous pouvons apporter. Alors, nous travaillons sur les thématiques d'extrémisme violent, les thématiques de braquage, les accidents. Alors, nous avons dans ce programme-là près de 300 moniteurs à travers Wanep Régional. Mmh. En Côte d'Ivoire, nous avons 31 moniteurs principaux, sans compter les moniteurs secondaires, qui sont sur le terrain, qui collectent les informations et qui font des points de situation pour que nous soyons au courant de ce qui se passe dans les différentes communautés.
Ok, à l'approche des élections, on va parler avec Wanepsi, naturellement, vous, de ce qui est fait. À quelques mois, on est à 3 mois et poussière des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Et au cœur des actions menées par le Wanep, on a le White Team. La White Team, c'est quoi ? Comment on peut la présenter ? Comment sont recrutées justement les personnes qui travaillent sur le projet ? Et puis, ça démarquant, qu'est-ce qu'on retient déjà les années précédentes, les éditions précédentes ? La parole est partagée. Hein.
D'accord.
Vous trois allez intervenir.
D'accord.
On commence avec Stéphane et puis on va retrouver après Leslie.
D'accord. Moi, je vais me concentrer sur la présentation du programme White Team.
Ok, allez-y.
Donc, alors, il faut savoir que White Team, qui signifie en français Programme d'autonomisation et de mentorat des jeunes, et en anglais Youth Transformational Empowerment and Mentorship, est une initiative qui a été lancée par Wanep Régional en 2022. Et nous avons vraiment déployé cette initiative-là en 2023. Alors, actuellement, nous sommes à la troisième cohorte. Et avant ça, nous avons eu la première cohorte en 2023 et la deuxième en 2024. Il faut savoir que la nouvelle cohorte a démarré son stage d'immersion depuis ce lundi dans les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest. Et cette année, nous avons eu 785 candidatures. Nous avons déjà lancé un appel avec des critères précis que mes condisciples ici pourront reprendre. Et nous avons reçu 785 candidatures. Alors, l'année passée, nous en avons eu 400. Donc, c'est pour montrer l'engouement qu'il y a maintenant avec ce programme-là. Et sur les 785, nous avons retenu 31 candidatures à travers l'Afrique de l'Ouest. Donc, mathématiquement, en fonction de... On peut dire qu'il y a deux personnes par pays. Et en Côte d'Ivoire, nous avons effectivement 2 personnes actuellement qui ont commencé leur immersion. Alors, il faut savoir que le programme White Team se base sur 4 piliers principaux, dont la formation en ligne. Nous avons des formations en ligne avec plusieurs thématiques, gestion des conflits, leadership, etc. Nous avons un stage professionnel. Nous avons des sessions de mentorat avec des experts dans le domaine de la sécurité, de la paix ou de la communication dans plusieurs autres domaines connexes. Et nous avons le quatrième pilier qui est celui de la visibilité des opportunités. Nous voulons que ces personnes qui postulent pour ces stages, pour ce programme-là, soient assez représentatives sur le monde du travail. Et par exemple, il y a les alumni des années 2023-2024 qui aujourd'hui s'en sortent. Il y a d'autres qui sont à la BAD, il y a d'autres qui sont eux-mêmes restés à Wanep Côte d'Ivoire pour continuer de travailler avec nous. Et il y a d'autres aussi qui sont allés dans d'autres programmes pour se faire
former. Alors, si je comprends bien, ça, au-delà de la formation, paix, sécurité, on a une certaine plus-value en culture du leadership. Ça permet de prendre les devants en entreprise, peut-être aussi.
Oui, effectivement, parce que le leadership, ce n'est pas forcément attirer du monde derrière soi. C'est aussi...
ça attire un monde sélectif.
Voilà. C'est aussi montrer les bonnes actions. Voilà, être toujours au-devant des choses, prendre des initiatives. Donc, c'est ce que nous essayons d'apprendre à travers la formation White Team.
Alors, sur les critères, justement, Emmanuel, Leslie, qui prend la parole ?
Oui, je peux prendre la parole. Bon, sur les critères pour être éligible au programme White Team, déjà, il faut être diplômé et aussi être dans la tranche d'âge de 18 à 35 ans. Et il faut également être citoyen et citoyen vivant en Afrique de l'Ouest et avoir la maîtrise soit du français ou de l'anglais.
L'anglais, on demande quelques critères relatifs à quoi, diplôme, de quel diplôme de façon générale. Est-ce qu'on ne demande pas des aptitudes particulières pour appartenir au projet?
Non, pas vraiment. Il faudrait que le citoyen soit étudiant. Il faudrait que le citoyen soit étudiant et aussi qu'il s'intéresse aux notions de sécurité, de paix, de développement et de leadership.
Alors pour vous personnellement, partagez-nous votre expérience, comment vous avez été choisi, aujourd'hui vous êtes stagiaire, qu'est-ce qui est fait, comment vous passez vos journées?
En tant que stagiaire White Team au niveau du OneNEP Côte d'Ivoire, j'ai été sélectionnée puisque je suis moi-même étudiante en droit de l'homme et action humanitaire. Et aussi, je m'intéresse plus ou moins à la question de la sécurité et la paix en Afrique.
Et alors, ça se passe comment finalement? Depuis que vous êtes là-bas, okay, avec qui vous travaillez, quels sont vos acquis, comment vous avez été en termes de formation renforcée?
Okay. En termes de formation, actuellement, je suis au programme Alerte Précoce et je suis chargée de faire la collecte des données concernant la situation socio-sécuritaire en Côte d'Ivoire. Et chaque semaine, je dois faire ressortir tous les éléments qui ont attrait à la sécurité en Côte d'Ivoire.
Voilà. Ok. Avec vous, Emmanuel, en termes d'ajout, qu'est-ce qu'on peut dire?
Bon, je voudrais dire qu'aux ajouts de Stéphane Kadjaï et Glessy Malawa, c'est que White Team, c'est un programme qui regroupe des jeunes, voilà, engagés dans la prévention des conflits. Et c'est cette promotion-là qui de jeunes qui est formée sur la prévention, comme l'alerte précoce, la gouvernance, la prévention de l'extrémisme violent et tout.
Alors, en termes d'objectifs de résultats, Stéphane, quels sont les objectifs recherchés par OneNEP à moyen terme, long terme, court terme, peut-être aussi? Ça va nous situer un peu.
D'accord. Ok. L'objectif de White Team, c'est déjà de renforcer les compétences des jeunes et de favoriser leur insertion professionnelle dans les domaines de la paix et de la sécurité. Il faut savoir qu'il y a aussi d'autres domaines qui sont acceptés, comme le domaine de la communication, de la gestion des projets, et ainsi de suite. Alors, nous voulons aussi, par ce programme, offrir pour plusieurs jeunes leur première expérience professionnelle. Parce que nous, on nous demande souvent, quand nous postulons, 2 ans, 3 ans d'expérience. Alors que la plupart des entreprises et d'organisations ne donnent pas la chance aux jeunes de pouvoir s'exprimer. Et comme je suivais une émission dernièrement, comme on le disait, même quand on t'emploie en tant que stagiaire, c'est juste pour te dire de faire le café et tout. Donc, nous, à travers cette formation, on essaie d'impliquer les jeunes dans les actions que nous menons au niveau de OneNEP, que ce soit régional, que ce soit OneNEP Côte d'Ivoire. Alors, nous voulons aussi que leur stage devienne une porte d'entrée principale dans le monde du travail. Voilà les objectifs que nous cherchons quand nous créons le programme.
Alors, cette fois, à combien de personnes à peu près seront formées? Ça démarre quand réellement?
D'accord. Le programme a démarré depuis le lundi surpassé. Alors, les stagiaires ont déjà débuté. Et comme j'ai dit, c'est 31 personnes à travers les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest. Vous allez peut-être me demander pourquoi il n'y a pas assez de personnes. C'est juste c'est juste par manque de moyens financiers que nous n'arrivons pas à prendre plus de personnes. Donc, pour le moment, nous nous consacrons à 2 personnes par pays.
Par pays.
Voilà.
Ok, si vous nous prenez en marche, sachez que nous sommes justement avec les agents de l'ONEPSI qui sont là. On a Stéphane Kadja, responsable jeunesse, paix et sécurité. On a Emmanuel Bousson, alumni White Team, assistant programme jeunesse, paix et sécurité. Et puis Leslie Malawa, stagiaire. Ils seront justement venus nous parler de cette opération White Team menée par l'ONEPSI. Et nous parlons d'implication de la jeunesse dans la consolidation de la paix sur les antennes de Radio de la Paix. Cette fois, on parlera d'avantages qu'on a à soutenir de telles initiatives. Ressortez les avantages, justement.
Alors, il y a plusieurs avantages à soutenir ces programmes-là. Déjà, comme on l'a dit, c'est de donner l'expérience à nos jeunes qui sont à la recherche d'une immersion professionnelle. Alors, le premier stage, comme on l'a dit, il est toujours important, ou la première expérience professionnelle est toujours importante. Et actuellement, nous, en Côte d'Ivoire, nous avons tellement de défis au niveau de la jeunesse, que ce soit des défis en matière de drogue, en matière d'extrémisme violent, en matière de violence basée sur le genre ou de conflits communautaires, que nous trouvons tellement important de former des jeunes dans ce domaine-là. C'est vrai, il faut former les jeunes dans le domaine des ressources humaines, de la comptabilité, c'est vrai. Mais actuellement, nous avons tellement de grands défis qui nous attendent devant que nous sommes obligés, pour que nos jeunes soient engagés dans les questions de paix et sécurité, dans les questions de démocratie, de former ces jeunes-là à tous ces défis. Donc voilà un peu.
Ok, ceux qui sont formés, naturellement, ont les coups de franche pour toucher leur père. Maintenant, on va parler cette fois même de la jeunesse elle-même en termes de difficultés. Aujourd'hui, on se rend compte qu'ils sont à la merci des politiques, quoi qu'on dise. Selon vous, quelles sont les causes de la violence, causes principales de la violence chez les jeunes? Et puis comment on peut aider à la résolution des conflits lorsqu'on est jeune? On va parler avec Leslie.
Déjà, pour que les jeunes puissent s'intéresser aux questions de paix et de sécurité, il faudrait qu'ils soient informés, parce qu'il y a un manque de vulgarisation, divulgarisation des thèmes de sécurité, de leadership et de paix. Et aussi, il faudrait permettre aux jeunes de comprendre aussi la notion de la gestion des conflits.
On parle de notion de gestion des conflits. Pour ceux qui ont déjà eu des formations, c'est perceptible, mais pour ceux qui, de façon générale, n'ont pas encore été formés, comment ils doivent percevoir les choses aussi?
D'accord. Pour un jeune, dans une communauté, quand on parle de gestion des conflits, on va parler de la période électorale. C'est de former les jeunes de sorte à ce qu'ils aient un moyen de réponse en cas de conflit au sein de leur communauté.
En termes d'anticipation, avant qu'on revienne à Stéphane, on se rend compte qu'aujourd'hui, justement, lorsqu'il y a violence, c'est parce que on a des intérêts qu'on veut protéger. C'est bien la raison pour laquelle on ne veut pas qu'une autre personne passe devant. Comment ça peut se passer lorsqu'on n'a pas suffisamment de moyens? On a besoin de protéger ses intérêts aussi.
Bon, je voulais dire qu'il faut vraiment faire confiance déjà aux jeunes, parce qu'il y a déjà vraiment une méfiance institutionnelle faite aux jeunes. Donc les jeunes sont perçus déjà comme immatures, souvent peut-être incontrôlables. Et il y a aussi peut-être un faible accès à l'information et à l'éducation civique. Donc c'est tout ça qui doit être vraiment pris en compte pour que les jeunes se sentent vraiment, vraiment importants dans ce processus.
Stéphane ?
Alors, pour revenir à ce que Leslie disait, l'avantage de soutenir de telles initiatives, c'est qu'elle nous permet elle permet aux jeunes, bon, je dis nous parce que je suis aussi jeune, elle nous permet de pouvoir développer la résilience communautaire. On a parlé ici de manipulation des jeunes. Alors, on peut dire que des pseudo-personnes, politiciens, essaient de manipuler les jeunes à leur guise. Et ce sont ces jeunes-là qui sont victimes, en même temps acteurs de violence. Donc, nous, l'avantage de soutenir ces initiatives, c'est plus de renforcer, de développer la résilience communautaire afin d'éviter la manipulation des jeunes, que ce soit en période post-paix ou pré-électorale. et de renforcer par la suite la cohésion sociale dans les différentes communautés. Alors maintenant, on parlait tout de suite d'implication des jeunes dans le processus démocratique.
Tout à fait.
Voilà. Les obstacles au niveau des jeunes sont multiples. Déjà, il y a les questions de désintérêt des jeunes pour la politique. Et ce désintérêt-là s'explique comment ? Il s'explique par une crise de confiance vis-à-vis des différentes institutions et des différents leaders.
Souvent, ils estiment que leur choix ne porte pas. Finalement, même s'ils vont voter, ça ne changera pas grand-chose.
Effectivement.
Aussi.
Voilà. Et en plus de cela, il y a beaucoup de jeunes qui ne voient pas, comme on l'a dit tout à l'heure, les retombées de leur conquête. Ils sont sortis dans les rues, ils se sont battus pour des politiciens et après, ils se rendent compte qu'au bout d'un moment, ils sont toujours au chômage. Ça n'avance pas.
Oui, ça ne tient que sur la période de campagne, peut-être.
Oui,
on a quelques biais, mais finalement, après, on ne sent plus grand-chose.
C'est ça.
Alors, je rappelle également qu'avec vous, nous parlons aussi d'exposition de la jeunesse aux réseaux sociaux. On a l'intelligence artificielle, on a tout ce qu'on appelle fake news et tout. Est-ce que quelquefois, vous pensez au fact-checking, à des formations comme ça ? Parce que ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité de détecter les fake news également.
Effectivement, nous y pensons. La preuve, actuellement, nous sommes en train nous préparons à organiser une formation de 100 jeunes sur la question d'alerte précoce et de fact-checking. Bon, je pense que l'occasion est toute donnée pour lancer un appel aussi à toutes ces personnes qui voudront nous accompagner parce que, comme vous savez, ce sont des projets. Mmh. Il faut qu'on ait de soutien de plusieurs partenaires techniques et financiers. Mais nous essayons quand même, de notre point de vue, à faire tout ce qui est nécessaire. Et cette formation-là nous permettra déjà de former 100 jeunes au fact-checking et de permettre une réduction des fake news sur les réseaux sociaux. Et nous espérons qu'après cette formation, nous garderons ce groupe de personnes formées afin de créer une petite armée contre les fake news sur les réseaux sociaux.
Au-delà des fake news, Leslie, avec vous, on a les discours de haine, on a le harcèlement. Est-ce que vous en parlez, justement, là-bas, à Wanep ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On a des situations, je pense, qu'on ne va pas cacher ici. En ce moment, on a un concours de beauté, et ça va dans tous les sens sur les réseaux sociaux. Comment faire pour sensibiliser les jeunes à ne pas tomber dans ce genre de harcèlement ?
Déjà, comme vous le dites, on doit éduquer les jeunes dans l'utilisation des réseaux sociaux et également éviter le harcèlement en permettant aux jeunes de plus s'intéresser au plus important.
Le plus important, c'est quoi ?
Au plus important, comme les prises de décision au sein même de la Côte d'Ivoire, participer à des ateliers de formation pour les jeunes. Et voilà, et également permettre aux jeunes de pouvoir.
C'est quoi ? Se retrouver, échanger autour des questions sensibles.
Faire des échanges, avoir des séances d'échange même entre les jeunes pour un partage d'idées.
Voilà. Alors Manuel, la situation, la jeunesse, ça va dans tous les sens sur les réseaux sociaux. On a des attaques, on a du harcèlement. On peut dire des choses pas toujours intéressantes. Quelle est votre perception là-dessus ? Quelles propositions vous pouvez faire pour ne pas qu'on tombe dans ce genre de discours de haine
déjà,
fréquent quasiment ?
Il faudrait vraiment, vraiment rester neutre vis-à-vis de ce qu'on voit déjà sur les réseaux. Et il faut aller à l'information. Ne pas vraiment se crisper sur peut-être une image donnée, peut-être vu maintenant l'avancée de l'intelligence artificielle. On voit plein de trucs, des trucs truqués et des gens peut-être relaient ça. Il faut vraiment faire le fact-checking, procéder à vraiment avoir toutes les informations et ensuite les relayer.
Au-delà du fact-checking, je parle des réactions de certaines personnes face à une situation. Qu'est-ce qu'elles doivent faire lorsqu'on est jeune ? Il y a la censure, il y a la loi, il faut faire attention aussi.
Oui, il faut vraiment être informé. Il ne faut pas rester là dans l'ignorance. Il faut être informé, aller à l'information pour ne pas peut-être même tomber même dans le piège parce que les réseaux sociaux, c'est vraiment un endroit vraiment, vraiment dangereux. Donc, il faut aller à l'information pour ne pas être vraiment se mettre dans une mauvaise posture.
On va revenir cette fois aux actions menées sur le terrain. de façon plus palpable, avec peut-être situation dans le temps et dans l'espace. Stéphane Kadja, au niveau du WANEPSI, qu'est-ce qui a été fait? On peut remonter encore à 6 mois ou 1 an. Et puis, qu'est-ce qui sera fait dans les mois à venir, les semaines à venir?
D'accord. Alors, nous savons tous que nous sommes dans une période assez critique de la démocratie dans notre pays, puisque nous avançons allègrement vers les élections. Et nous savons que ces élections-là sont toujours facteurs de peur au sein de la population.
L'anxiété.
C'est ça. Et au niveau de WANEP, nous avons essayé d'avancer nos pions avant que cela ne soit fait. Nous avons par un bailleur que nous avons eu, qui est Partner Global, mené une initiative de jeunes, un projet jeune qui est appelé Peace Way. Alors, pendant ce programme, nous avons formé les jeunes à l'alerte précoce, nous avons formé les jeunes à la gestion des conflits, aux conflits communautaires, etc. Mmh. Donc, ces jeunes-là, après avoir suivi leur formation, ont immédiatement proposé des projets impactants à court terme dans leur communauté. Et cela a permis de mener des activités comme le Café Citoyen, qui est un espace d'échange et de dialogue de jeunes sur les questions de paix, de sécurité, de démocratie. Nous avons aussi, à travers d'autres projets, sensibilisé les jeunes dans des localités assez lointaines pour les questions de manipulation électorale, pour les questions de gestion des conflits communautaires, etc. Donc, c'est des actions que nous avons commencé à mener depuis. Et WANEP Régional, WANEP Côte d'Ivoire, à travers WANEP Régional, mène actuellement un des plus importants projets, qui est le projet EMAM, en français, suivi, analyse et atténuation de la violence électorale, qui est un projet dans le sens de prévenir les violences électorales. Alors ce projet-là est mené depuis l'année passée, parce qu'il faut que déjà nous soyons dans la prévention. Après, maintenant nous pouvons passer à l'action. Donc dans ce projet, nous avons créé ce qu'on appelle le groupe national de réponse électorale, qui est un groupe formé de tous les acteurs qui sont intéressés dans les questions de politique, de démocratie. Et ces personnes-là sont choisies afin d'identifier des incidents qui pourraient mettre à mal le processus électoral. Et ils doivent aussi apporter la réponse pour éviter que cela se passe. Donc, nous avons ce groupe national de réponse électorale qui est mis en place et qui fait son travail. Je pense que dernièrement, ils ont été reçus par le représentant de l'Union africaine et le représentant de la CEDEAO. Donc, ce sont des missions de bande office qui sont lancées afin de prévenir d'éventuelles violences pour les élections en Côte d'Ivoire.
Ok, on va toucher cette fois les familles. C'est vrai qu'au-delà de tout, le WANEP fait ce qu'il peut faire. Mais en termes d'éducation, de cellules familiales, vous êtes dans des familles naturellement. Quel est votre regard sur l'environnement, sur l'encadrement des jeunes depuis les familles pour qu'on ait une jeunesse assez pacifique? C'est un point de vue personnel.
Bon, actuellement, la situation, elle est vraiment, on ne peut pas dire qu'elle est vraiment tendue aussi, mais on regarde d'un œil vraiment extérieur et on attend que peut-être que tout se passe bien. Et c'est vraiment positif. Donc, la situation est plutôt calme.
Je reviens à la question. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous pensez que les familles, quel rôle elles doivent jouer dans l'édification d'une jeunesse pacifique avant que, naturellement, des organisations comme le WANEP prennent le relais?
Déjà, il faut être neutre. Il faut aller au plaidoyer, aller au contact, rester, si je ne m'abuse.
Okay. Ça. Oui. Concernant les familles, je pense déjà qu'il faut que nos parents soient formés, soient informés sur les questions de paix, de sécurité, de prévention. Parce que, comme on l'a dit, c'est une formation que les parents peuvent apporter à leurs enfants. Par exemple, on parlait souvent de militantisme, que ce soit en matière de politique ou en matière de société civile. Moi, je me suis engagé en tant que leader des jeunes, en tant qu'expert en gestion des conflits. Il y avait le côté familial qui n'était pas vraiment... Les parents qui n'étaient pas d'accord. Mais il faut leur faire comprendre qu'en militant, on peut aussi faire changer les choses. Donc, il faut déjà que ces parents-là soient informés afin de donner une formation je ne peux pas dire politique, mais tout le monde fait de la politique. Donc, que ce soit dans nos salons, quand on critique, c'est de la politique. Donc, que nos parents vraiment soient là pour nous donner des conseils, pour nous guider et pour ne pas nous enfoncer, comme on le dit. Donc, les familles, c'est beaucoup important, surtout dans le militantisme.
Avec vous, Leslie, quel est le rôle que doivent jouer les familles? Et puis, de façon générale, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la jeunesse est écoutée par les instances de décision? C'est un regard.
Je dirais oui, que la jeunesse est écoutée.
Qu'est-ce qui vous revient justement à partir des échanges que vous avez eus avec les jeunes qui ont été formés ou pas?
Bon, parce que à travers les débats qu'on fait souvent même dans nos universités, sous la coupole de nos professeurs, il y a par moment des informations qui remontent au niveau du ministère pour que ces prises de décision lors de ces échanges soient vraiment écoutées et essayées d'être appliquées. Donc je dirais que au niveau des familles, comme le disait Kadja, c'est vraiment la formation et l'information que les parents doivent avoir.
Oui. Je ne dois pas aussi aller dans la passion.
Voilà, c'est ça. Parce que moi, j'ai fait la science politique et quand tu dis que tu es en science politique, on se dit que tu fais la politique pourquoi? Pour quelles raisons tu fais? Il y a d'autres filières comme la communication où carrément on te dit de passer un concours. Parce qu'on se dit, tout le monde se dit que sa voix ne peut pas porter auprès des instances.
Voilà. Alors, quelles recommandations ou quelles solutions pour qu'il y ait plus d'implication des jeunes dans les cercles de décision?
Déjà, quelles recommandations nous voulons faire? Et c'est un plaidoyer que OneUp veut lancer. C'est-à-dire, nous voulons qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, on puisse instaurer un quota de jeunes dans des postes de décision, mais aussi dans les partis politiques. Parce que nous avons remarqué que les jeunes dans les partis politiques qui sont impliqués dans la gestion, dans les grandes décisions, c'est à peu près 10%.
Bien, et c'est une jeunesse relative. À 50 ans, on est encore jeune, c'est peut-être ça. Aussi.
Alors que normalement, de ce qu'on sait, c'est que les jeunes, c'est de 18 à 35 ans. Donc après 35 ans, bon, on n'est plus jeune, on devient un adulte. Donc voilà, c'est ce point-là, l'instauration d'un quota, comme on l'a fait pour les femmes. Actuellement, pour les élections, on a estimé un quota de 30% pour les femmes. Je pense qu'on pourrait déjà commencer avec les jeunes à instaurer ce genre de quota-là pour que les jeunes aussi soient motivés à s'engager dans la vie politique et surtout dans le débat politique ivoirien.
Ok, un message également avec vous, Emmanuel Bonson.
Oui, comme recommandation, il faudrait vraiment, vraiment valoriser les bonnes pratiques des jeunes leaders, motiver les jeunes à porter vraiment haut leur projet et d'intégrer aussi les jeunes dans les systèmes de comités de pilotage électoral et tout, renforcer aussi leur programme de formation civique.
Revenons au leadership, il englobe beaucoup de choses. La formation leadership, dites-moi, Céphène, qu'est-ce qui est fait en termes de formation et puis comment on pourrait dire qu'un jeune est devenu désormais un leader ou impacte sa communauté?
Ok. Ce qu'on peut dire, c'est que déjà au niveau de OneUp, nous essayons d'identifier les leaders. Quand on parle de leader, c'est quelqu'un qui prend des engagements dans sa communauté, qui est engagé, que ce soit politiquement, que ce soit socialement, mais quelqu'un qui impacte déjà sa communauté à travers ses actions. Et c'est ces personnes-là que nous identifions et nous faisons le renforcement des capacités afin de le rendre encore plus actif dans sa communauté. Et ce leadership-là, c'est un leadership qui est soutenu par OneUp en faisant, comme j'ai dit, des formations, en cherchant des projets à ces jeunes-là, afin qu'à travers les projets, ils puissent impacter positivement leur communauté. Donc voilà ce que nous faisons avec les leaders, comme on dit. Donc c'est ce genre de leadership-là, mettre le talent en avant, mettre la visibilité en avant, afin que demain, on puisse avoir des grands leaders de ce pays.
Vous avez dit qu'il faut faire la différence entre leader et leader aussi.
Oui, il y a une différence entre leader et leader.
On va rentrer dans les détails. Mais bon, il faut comprendre qu'il faut impacter positivement sa communauté et non s'ériger en star et se faire suivre à tout bout de champ. Très heureux en tout cas, ces moments partagés avec vous. Stéphane Kadja, responsable jeunesse, paix et sécurité de OneUp, Emmanuel Bonson, alumni White Team, assistant programme jeunesse, paix et sécurité, Leslie Malawa, stagiaire. de la troisième cohorte. Alors, de façon générale, on va revenir sur le programme pour la suite. On a parlé de White Team. Mmh. On revient, on démarre la formation quand, quelle invitation on peut adresser au public ivoirien, et puis comment éventuellement profiter aussi de toute la formation, même si on n'est pas de White Team. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment les autres ivoiriens doivent pouvoir profiter?
D'accord, déjà comme on l'a dit, le programme a déjà commencé et actuellement nos stagiaires vont faire le tour des 3 ou 4 programmes qu'il y a à WANEP afin de pouvoir s'intégrer aisément et de mener les activités comme il se doit. Alors, je pense que WANEP est ouvert. Nous sommes déjà situés à Béjaville, à Kouidjémé, voilà, après un an. Et nous sommes ouverts 5 jours sur 7. Voilà, et vous venez juste, puis nous sommes disponibles. Donc, peut-être, je peux donner un numéro avant de continuer.
Allez-y.
Le numéro 01-40-41-97-41. Voilà. Si vous nous contactez, nous pouvons répondre à... Alors maintenant, concernant comment venir à WANEP ou comment...
Profiter
des formations. La plupart du temps, nous lançons des appels à candidature pour des formations. Et dans ces jours à venir, il y a un appel qui sera lancé pour la formation en fact-checking, la formation de 100 jeunes en fact-checking qui sera lancée bientôt. Donc nous appelons les jeunes à soumettre massivement leur candidature afin d'être parmi les élus, pourquoi pas. Voilà. Et
alors, pour candidater, il faut faire quoi?
Pour candidater, il faut juste être âgé de 18 à 35 ans. Il faut avoir des notions en matière de numérique. Voilà, il faut avoir un ordinateur. Il faut être actif sur les réseaux, tout simplement.
Les conditions accessibles quand même, quoi qu'on dise. Merci Stéphane, on va terminer donc avec vous de façon générale. On revient à vous, on va aller avec Leslie. Un mot de la fin, qu'est-ce qu'on peut dire? Quel est le sentiment qu'on a? Et puis, quels sont vos espoirs pour la Côte d'Ivoire?
D'accord, déjà, on vous dit merci de nous avoir écoutés, d'avoir présenté le programme White Team. Bon, mon espoir pour la jeunesse, pour la Côte d'Ivoire, c'est que la jeunesse essaie plus ou moins de se concentrer sur la démocratie, la politique et même le système électoral. Qu'ils essaient de donner aussi leur avis, parce que la vie des jeunes compte dans la démocratie d'un État.
Ok, Manuel, dernier mot?
Oui, je voudrais ajouter ici qu'il est temps que les jeunes ne soient pas vraiment des spectateurs, des victimes du système. Voilà, donc il faut qu'on soit vraiment une responsabilité collective afin qu'on ait un impact vraiment positif dans la prise de décision.
Ok, Stéphane, on résume avec vous.
Voilà, mon dernier mot, ça s'adresse déjà à 2 acteurs principaux qui sont les partenaires techniques et financiers. Alors nous n'allons jamais cesser de lancer des appels à ces partenaires-là pour qu'ils nous aident à mener nos activités, pour qu'ils nous aident à impacter les communautés, à impacter surtout la jeunesse. Nous savons que la jeunesse est l'avenir d'un pays et miser sur la jeunesse, c'est miser sur le développement. Donc nous appelons tous ces partenaires, ces entreprises, ces structures à financer nos programmes, surtout les programmes de jeunesse et de femmes. Et nous les invitons aussi à soutenir ces initiatives régionales qu'est White Team. Et je fais un focus aussi pour dire qu'à WANEP, nous avons un réseau de jeunes qu'on appelle Youth for Peace, qui recherche aussi des financements pour pouvoir mener ces activités. Maintenant, mon adresse aux jeunes, c'est spécifiquement sur la question des manipulations. Alors, il faut savoir que nous sommes à la veille des élections et nous appelons les jeunes à la réserve. Nous appelons les jeunes à la conscience, et il faut qu'ils évitent d'être acteurs de troubles, parce qu'ils pensent qu'ils sont acteurs, mais ils sont aussi victimes. Donc nous appelons tous ces jeunes-là à s'engager politiquement et à suivre tout le processus démocratique qu'il y a pour aller vers les élections, une élection paisible. Merci beaucoup.
Apaisé. Merci beaucoup. Portez-vous bien, Emmanuel, Leslie, et puis Monsieur Kadja, on se retrouve très bientôt. Bonne chance pour vos activités, et puis justement que la paix règne en Côte d'Ivoire.
Si bien.
C'était sujet de discussion.